au pluriel par lesquels on est sorti d'Égypte. Alors que une seule étape, la première étape, a suffi pour quitter l'Égypte. À partir de la deuxième étape, ils étaient déjà plus en Égypte. Donc si on parle de sortie d'Égypte à proprement parler, on aurait dû dire Massa. Une étape au singulier. Le pluriel est difficile à comprendre ici. Des kayal kol mem bet masaot ad boam al yarden yericho. Donc le pluriel du verset, il porte sur l'ensemble des étapes qui les a conduits de la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Toutes les 42 étapes. Donc ça, c'est la question qu'on pose traditionnellement sur ce verset. Il y a une étape qui a permis de quitter l'Égypte. Donc, pourquoi est-ce qu'on inclut toutes les 42 étapes à la fois dans la sortie d'Égypte? Pourtant, Tiv, le verset dit bien, « Asher yatsu me'eretz Mitzrayim ». On parle bien ici de sortie d'Égypte. Donc, pourquoi est-ce qu'on considère que la sortie d'Égypte s'achève en Eretz Israël, au moment où ils sont rentrés en Eretz Israël, alors qu'a priori, une seule étape leur a permis d'ores et déjà de quitter l'Égypte. Vehare Meretz Mitzrayim ira ki yitzia ou nesia rishona. Le premier voyage, la première étape, la première phase de la sortie d'Égypte, elle a suffi pour quitter ce pays. Et ensuite, à l'issue de la première étape, d'ores et déjà, il n'était plus en Égypte. Oui. Pardon. Parchat Dvarim, oui, mais comme la Torah est éternelle, l'enseignement de la semaine dernière peut encore nous servir cette semaine. Ve'are emeret mitrei merak yitzia onisia rishona shenasu meramses lisukot. Donc la Torah fait l'énumération des 42 étapes qui ont permis de sortir d'Égypte, la première étape a permis d'ores et déjà de quitter l'Égypte. Donc ça, c'est la première question que le rabbi pose ici, qui est une question qu'on retrouve systématiquement dans les Ma'amarim de cette paracha. Pourquoi est-ce que l'ensemble des étapes de la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée en Eretz Israël est considéré comme la sortie d'Égypte, alors que physiquement, dès la première étape, d'ores et déjà, ils n'étaient plus en Israël, en Égypte, pardon. Gam tzarich leavin, deuxième question qu'on pose ici. Ina Torah initzrit. La Torah est éternelle. Aynu shei ora nitzrit be'avodat ha'adam bechol makom bechol zman. Donc un passage de la Torah doit pouvoir délivrer un enseignement qui n'est pas lié avec un lieu géographique et avec une époque précise. Là, en l'occurrence, la Torah nous raconte un fait historique. Quelque chose qui s'est passé à une époque bien précise et dans un lieu bien précis. Donc comment est-ce qu'on peut tirer un enseignement éternel de quelque chose qui est lié aux conditions du temps et de l'espace? C'est la deuxième question.
Ça ne vous dérange pas d'avancer un petit peu la
chaîne? Oui. Donc de quelle manière on peut tirer un enseignement éternel d'un passage de la Torah qui en apparence la relation d'un événement historique. Madoua nifretu betora kol mem bet masaot. Pourquoi la Torah nous détaille toutes les 42 étapes? Vous savez que par exemple, la Gemara nous dit qu'il y a eu des milliers de prophètes. Sur les milliers de prophètes qu'il y a eu, seulement quelques-uns sont parvenus jusqu'à nous. On laissait des textes qui nous sont parvenus. Par exemple, il y a une porte du Beit HaMikdash qui s'appelle Shari Khulda. Khulda, c'était une prophétesse, donc on sait qu'elle se mettait à cet endroit-là lorsqu'elle prophétisait, on sait qu'elle était prophétesse, on ne sait pas quel est le contenu de sa prophétie, parce qu'elle a prophétisé uniquement pour sa génération. Donc il y a eu des milliers de prophètes qui ont existé, qui ont prophétisé pour leur génération à eux, dans la mesure où leur enseignement n'était pas valable pour toutes les époques à la fois, il n'est pas parvenu jusqu'à nous. Ça veut dire, à l'inverse, que chaque fois que la Torah nous raconte quelque chose, c'est que nécessairement on peut en tirer un enseignement dans toutes les générations. Donc là, en l'occurrence, l'événement que la Torah nous raconte, il a l'air strictement historique. On nous parle de 42 étapes que les Bnei Israël ont traversées dans le désert en sortant d'Égypte et en arrivant en Eretz Israël. Donc le rabbi nous demande quel est l'enseignement éternel qu'on peut en tirer. Gam tsarich leavin. Troisième question que le rabbi pose ici. Mashekatou beyad Moshe ve'Aaron. La fin du verset, c'est Moshe et Aaron ont conduit les 42 étapes. Or, Kayal kol masaot, c'est valable pour toutes les 42 étapes à la fois. Donc, Hare behor ahar met Aaron, on sait que Aaron est mort à Hor ahar, c'est-à-dire avant d'arriver à la 42e étape. Donc, les dernières étapes se sont passées en l'absence d'Aaron. Et donc, Echef Charlomar, Shegam amasaot shelachreze, comment est-ce qu'on peut dire que les masaot, les étapes qui se sont passées après le décès d'Aaron, ont néanmoins été dirigées par Aaron. Ayu be'ad Moshe ve'Aaron, la Torah inclut bien toutes les 42 étapes en un seul groupe, et donc elle nous dit que les 42 étapes étaient dirigées par Moshe et Aaron. Donc de quelle manière Aaron peut diriger des étapes au moment où physiquement il n'est plus là? Donc voilà les trois questions qu'on nous pose ici. Comment comprendre le pluriel qu'il y a dans ce verset? Comment voir l'éternité de la Torah dans la relation d'un événement historique? Et troisième question, comment Aaron peut diriger les étapes du peuple juif après sa disparition physique? Il y a des textes ici pour ceux qui veulent. Nekudin Tabiur Bezé, donc le rabbi nous dit brièvement la réponse aux trois questions. On va les déduire. Behagdim, Machin Ben, Léa, Datora Nitzrit, en revenant sur un point qu'on a évoqué au préalable, c'est-à-dire l'éternité de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Aïnou, Shekol, la Torah Kula, Yoraa, Lechol, Echad, Ve'achat. Chaque idée de la Torah délivre un enseignement pour chacun et pour chacune. Bechol, Makom, Bechol, Zman, indépendamment des conditions du temps ou de l'espace. Le fait que la Torah constitue un enseignement pour chacun et pour chacune, mouvan mima shekatuv anochi Hashem Elokecha lashon yachid. On peut le déduire d'abord du fait qu'au moment où Dieu s'est dévoilé, au moment où Dieu a donné les 10 commandements, alors Dieu s'est exprimé au singulier. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et donc la Torah nous raconte, le Midrash nous dit, Rashi rapporte que malgré l'étendue du campement des Bnei Israël au moment de Matan Torah, lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu », chacun avait l'impression que Dieu était tourné dans sa direction à lui. Chacun disait « Imi Ashrinam Medaberet », c'est à moi que Dieu s'adresse. Donc, le Matan Torah, qui a été la révélation à chaque juif en particulier, a été exprimé de telle façon que chacun puisse prendre la Torah comme un enseignement personnel. Shenemar lechol echad ve'achat, donc les 10 commandements ne sont pas des injonctions globales qui ont été données à tout le monde de manière collective, ce sont des ordres individuel qui s'adresse à chacun en particulier. Kshem sheu ba'aseret adibrot ader zeu bechol haTorah kula shenitna lechol echad v'Yisrael bifrat. Donc ce qui est valable pour les 10 commandements, vous savez que dans les 10 commandements il y a 620 lettres qui correspondent aux 613 mitzvot de la Torah et aux 7 mitzvot des Chachamim. Il y a des explications, en particulier Rabbi Sadia Gaon nous montre de quelle façon toute la Torah est incluse dans les 10 commandements. Donc, si les 10 commandements ont été rédigés de telle façon qu'ils s'adressent à chacun en particulier, ça veut dire que chaque idée de la Torah en particulier s'adresse aussi personnellement à chaque juif et à chaque juif. Ba'inu de'avshiyesh chalakim ba'Torah medabrim advar mitzvot ha'shaychot elvim v'israelim aderech mashal. Donc là, le rabbi nous soulève une question. Il y a des fois où la Torah parle de mitzvot qui concernent qu'un Lévi, ou alors un Israël, ou alors un Kohen. À ce moment-là, quelqu'un qui n'est pas Lévi, ou qui n'est pas Israël, qui n'est pas Kohen, comment est-ce qu'il peut être concerné par une partie de la Torah qui, en apparence, ne s'adresse pas à lui? Alors le rabbi répond, « Bechol ze'are gam hem nitnu la kohanim, mechen le'eper. » Quelqu'un qui est Lévi doit également étudier dans la Torah la partie de la Torah qui parle du Kohen, et inversement. Et donc, la Torah fait en sorte que quelque chose qui ne nous concerne pas physiquement nous concerne moralement. Ça veut dire que dans chaque mitzvah, il y a deux dimensions. Il y a la dimension physique de la Torah. Donc la dimension physique des mitzvot des Kohanim ne peut être mise en pratique que par les Kohanim. Ça veut dire, Rabbi explique, que dans une génération, il y a des Kohanim. Lorsque les Kohanim mettent en pratique leur mitzvot, ils le font pour le compte de tous les juifs de la génération qui ne sont pas des Kohanim. Lorsqu'un roi met en pratique ses mitzvot, il le fait pour toute sa génération. Lorsqu'on vit dans une génération où il n'y a pas de roi, le rabbi explique que dans ce cas-là, le dernier roi qu'il y a eu avant que la royauté soit rétablie a accompli les mitzvot pour lui-même, pour sa génération et pour toutes les générations à venir jusqu'à qu'il y ait de nouveau un roi. Donc la dimension physique de la mitzvah s'applique pour celui qui est concerné par elle. Par contre, la dimension morale de la mitzvah concerne chacun. Ça veut dire que même quelqu'un qui n'est pas un Kohen peut tirer un enseignement moral de la mitzvah qui est donnée à un Kohen et arriver à modifier son comportement en fonction de cet enseignement. Donc c'est ça ce qu'on peut appeler l'éternité de la Torah. Il faut distinguer plusieurs paliers d'interprétation de la Torah. Il y a un premier palier qui est l'application concrète. Et l'application concrète, elle peut être limitée dans le temps et dans l'espace. Mais chaque idée de la Torah a nécessairement une dimension spirituelle qui s'applique toujours, quel que soit le temps et quel que soit le lieu.
Si on prend globalement l'ensemble du peuple juif, il y a des juifs qui font partie des chefs de tribu,
donc qui ont des mitzvot concernant les chefs de tribu. D'autres mitzvot, à l'autre extrême, s'appliquent à l'étranger qui habite dans ton campement, c'est-à-dire à la catégorie la plus humble du peuple juif. Donc même si les mitzvot sont donnés de telle façon que chacun a une mitzvah qui le concerne plus, néanmoins, il y a dans chaque mitzvah une dimension spirituelle qui peut s'appliquer à tout le monde de manière identique. Kol makom, arikola Torah kula, nitna lechol echad ve'achat Israël. Donc c'est bien l'ensemble de la Torah qui a été donnée à chaque juif et à chaque juive. On ne peut pas dire telle mitzvah a été donnée pour les Kohanim, je ne suis pas un Kohen, donc je ne suis pas concerné. Si je ne suis pas Kohen, c'est-à-dire que je ne suis pas concerné par l'application concrète de la mitzvah. Par contre, il y a nécessairement une dimension morale de cette mitzvah qui me concerne et qui doit également modifier mon comportement. Kenugam Beinan Azman. Donc on vient de donner l'explication de l'éternité de la Torah en fonction des différentes catégories du peuple juif. On peut voir maintenant la même chose en fonction des différentes époques. Kol haTorah yora al kol hazmanim kol el gam zman hagalut. On peut penser que la Torah donne parfois des enseignements qui concernent la période du Beit HaMikdash, la période où on possédait le Beit HaMikdash. Donc on peut dire actuellement le Beit HaMikdash est détruit, donc tout ce qui concerne cette époque-là ne s'applique plus à nous. Donc le rabbi nous dit, on peut appliquer le même raisonnement, ce qui s'appliquait concrètement au Beit HaMikdash n'est effectivement plus applicable à l'époque actuelle. Par contre, les enseignements moraux, toute la valeur spirituelle que le Beit HaMikdash pouvait apporter, ça s'applique également pendant le temps de l'exil. « Ve'adraba, davka zman agalut, sha'are, bekamut azman inez, zman agalut ou rav yoter me azman shelo ayu Israël begalut. » Donc le rabbi donne ici un argument logique. On voit que dans l'histoire du peuple juif, le peuple juif a été plus longtemps en exil que à l'époque du Beit HaMikdash. Donc, si on dit que certains enseignements de la Torah ne s'appliquent que à l'époque du Beit HaMikdash, ça veut dire que la Torah a donné des enseignements pour une période de temps réduite et que pour une période de temps beaucoup plus large, elle n'aurait pas donné d'enseignement. Donc, ce n'est pas une idée acceptable. Et donc, on est obligé de dire que même lorsque la Torah donne un enseignement qui est clairement appliqué à l'époque du Beit HaMikdash, malgré tout, sa dimension morale peut être retenue également à une autre époque. Des gam im nechashev et timé abayit arishon shama tabiut shana. On sait que le premier Beit HaMikdash a existé pendant 410 ans.
Abayit Hasheni Shamad Taf Chavshana, le deuxième Bet Hamikdash a existé pendant 420 ans. Donc vous voyez que les deux Bet Hamikdash ensemble, ça fait 830 ans, alors que ce dernier exil dure depuis pratiquement 20 siècles, et qu'il y a eu d'autres exils précédents. Donc ça veut dire, dans l'histoire du peuple juif, la période de l'exil a été plus longue que la période où il n'y avait pas d'exil. A Mishkan, Shamad Lametet, au même Shana, de même le Mishkan qu'il y avait dans le désert au moment de la sortie d'Égypte, a été construit pendant 39 ou 40 ans. Il n'y a kol beyachad lo yagel et mesher zman agalut. Donc si on met bout à bout ces trois périodes, il est évident que la période de l'exil est beaucoup plus longue que ça. Donc là, le rabbi nous montre logiquement qu'on ne peut pas admettre l'idée que la Torah donnerait un enseignement pour une petite période de temps sans voir son application sur une période de temps beaucoup plus longue. Kevan sha Torah yichayenu verech yamenu, puisque la Torah est à l'origine de notre existence, bechach loma shehoraot sheba shayichot gam meshech zman agalut. Donc on est obligé de dire que même lorsque la Torah précise clairement qu'un certain enseignement s'applique à l'époque du Bet Hamikdash, malgré tout, lorsqu'on vit pendant la période de l'exil et qu'on n'a pas le Bet Hamikdash, cet enseignement s'applique également. Shu merubé bekamut mishar azmanim, puisque l'exil est la période la plus longue du peuple juif. Mise mouvan shegam beinan amasaot yeshora nitzrit lechol echad veachat ubechol zman kolel b'miuchad uzman agalut. Donc ça veut dire que pour revenir aux questions qui ont été posées au préalable, on étudie ici un passage de la Torah historique qui nous décrit les 42 étapes que les Juifs ont traversées lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour pouvoir arriver en Eretz Israël. Donc a priori, on a l'impression d'étudier un événement historique sans portée spirituelle. Donc le rabbi nous dit, la lecture qu'on doit avoir de ce passage de la Torah, c'est qu'il y a nécessairement un enseignement moral et que cet enseignement moral s'applique à toutes les époques, y compris à la nôtre. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, essayer de comprendre quel est l'enseignement que la Torah nous délivre de cette façon. Donc le rabbi commence l'explication, le rabbi nous dit Dehine inyan amasaot yadua shinyan amasaot yeshno beavodat kol echad veechad. On sait que l'équivalent de ces 42 étapes se retrouve dans l'existence de chacun. Kol ish mi Yisrael meshech imechayav over et membet Amasaot, chaque juif, pendant le courant de son existence, doit passer par ces 42 étapes. C'est l'enseignement du Baal Shem Tov, c'est l'explication que donne le Baal Shem Tov sur cette paracha. Le Baal Shem Tov nous dit pourquoi est-ce que la Torah décrit ces 42 étapes ? Parce qu'en fait, chaque juif, pendant le courant de sa vie, doit nécessairement traverser l'équivalent de ces 42 étapes. Donc les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte ont vécu les 42 étapes physiquement. Chacun, chaque juif, quelle que soit l'époque à laquelle il appartient, doit traverser pendant le courant de son existence les 42 étapes spirituellement. Et donc c'est en étudiant les 42 étapes telles qu'elles se sont passées physiquement dans la Torah qu'on peut ensuite savoir de quelle manière nous on doit les passer spirituellement, moralement, dans le courant de notre existence. La première étape, la sortie d'Égypte proprement dite, c'est la naissance. Ki biyoto beibur bebeten imo ou beprinat galut mitzrayim animshal leibur. Un enfant en gestation, il n'est pas libre de ses mouvements. Le fait de ne pas être libre de ses mouvements, c'est justement la définition de l'exil. Et on voit qu'effectivement, l'exil de façon générale est comparé à l'état de gestation. C'est pour ça qu'ensuite, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, c'est comparé à la naissance du peuple juif qui fait suite à la gestation. La Torah nous dit la kachat lo goy mikerev goy. Dieu a fait sortir un peuple d'un autre peuple. Il y avait en Égypte les Juifs et les Égyptiens qui étaient mélangés. Donc la sortie d'Égypte, c'est un peuple qu'on fait sortir d'un autre peuple, la kachat lo goy mikerev goy, exactement comme un enfant qui quitte le ventre de sa mère et qui auparavant dépendait totalement de sa mère, mangeait ce que mangeait sa mère, etc. et qui, à partir de sa naissance, acquiert une existence indépendante. Donc la première de ces 42 étapes la sortie d'Égypte dans l'existence de chacun, c'est la naissance. Ensuite, à partir de la naissance, chacun va vivre sa vie, chacun va être confronté aux épreuves que lui doit être confronté dans sa vie. Et ça, c'est ce qui correspond aux 41 étapes suivantes. Hachebeagir le meave esrim shana, je crois qu'on arrive au terme de sa vie, donc à la 42e étape. Asba el eretz hachaim ha'elyona, à ce moment-là, l'âme retourne là-haut. Donc de même que les Juifs ont passé la 42e étape, ils ont passé le Yarden, ils sont arrivés en Eretz Israël dans le pays de la vie. De la même façon, lorsqu'un Juif arrive à la 42e étape de sa vie, lorsqu'il a accompli dans le monde la mission qui avait été confiée à sa Neshama, alors son âme retourne là-haut, dans le pays de la vie spirituelle. C'est la 42e étape de la vie de chacun. Ensuite, le rabbi précise l'explication. Il nous dit, comme il y a l'équivalent des 42 étapes dans la vie de chacun, il y a également l'équivalent des 42 étapes dans chaque journée. Entre le lever le matin et le coucher le soir, on passe également par 42 étapes. Debetrinat hayom aru kilu nolad mechadash. Quand on se lève le matin, il s'agit d'une nouvelle naissance. Que vous savez que le sommeil est comparé à un 60e de la mort. Donc ça veut dire que pendant le sommeil, la neshama quitte le corps. Et donc le corps est animé uniquement par une petite partie de la neshama qui assure uniquement les fonctions minimales du corps. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui dort ne peut pas raisonner, il ne peut pas bâtir un raisonnement, il ne peut pas voir, il ne peut pas entendre, et c'est uniquement les fonctions vitales du corps, la respiration ou le système digestif, qui sont assurées pendant le sommeil. Mais par exemple, le fait qu'on puisse rêver quelque chose d'aberrant, c'est la preuve que la neshama a quitté le corps. Quand on est en état de veille, la neshama est dans le corps, donc si on a une idée aberrante qui nous arrive dans l'esprit, on est capable de la repousser immédiatement. De ne pas y réfléchir. Par contre, pendant la nuit, la neshama n'est plus dans le corps. Et donc, lorsqu'une idée aberrante arrive pendant le rêve, alors on n'a pas la force de la repousser. C'est pour ça qu'on peut rêver de quelque chose qui n'a pas de sens, alors que pendant la journée, on évacuerait de son esprit une idée comme ça immédiatement.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que dans ces cas-là, quand la personne elle dort, elle est comme un goy?
N'est pas comme un goy, parce que d'abord on a une petite partie de la neshama qui reste à l'intérieur du corps. Ceci dit, tous les matins, on dit la bracha shelo asani goy. Ça veut dire qu'a priori, on pourrait penser que la bracha shelo asani goy, on pourrait la dire une seule fois au début de sa vie. Si au moment de ma naissance, Dieu m'a pas fait un goy, ça veut dire qu'a priori, il y a peu de chances de penser que pendant le reste de ma vie, je vais devenir un goy. Alors on voit que concrètement, on dit la bracha shelo asani goy tous les jours. Pourquoi? Parce qu'au moment où la neshama quitte le corps pendant la nuit, il n'est pas exclu qu'elle puisse s'attacher à quelque chose qui n'est pas directement attaché à une âme juive, en fonction du comportement de la journée, en fonction des décisions de Dieu. Donc c'est pour ça que tous les matins, quand on se réveille et qu'on constate que ça n'a pas été le cas, alors on redit tous les jours la bénédiction shelo asani goy. Car retenez que la mort est un sommeil 60 fois plus profond que pendant la nuit, la neshama, l'essentiel de la neshama a quitté le corps, et que lorsque on se réveille le matin, la neshama ne s'installe pas directement dans le corps. Vous voyez que lorsque Adam Harishon, le premier homme, a reçu sa neshama, la Torah nous dit « Vaipach be'apav nishmat chaim ». Dieu a fait rentrer sa neshama par ses narines. Et donc, lorsqu'un homme se réveille le matin et que sa neshama rentre dans son corps, alors elle ne rentre que dans ses narines. Et donc, on a besoin de soumettre le corps à Dieu puisque le fait que pendant la nuit, la Neshama a quitté le corps, ça fait que le corps a perdu sa soumission naturelle à Dieu qu'il avait pendant toute la journée. Donc dans la mesure où le corps n'est pas soumis à Dieu, alors la Neshama ne se répand pas dans tout le corps. Et c'est uniquement la tfila qui est un acte de soumission envers Dieu, qui fait que la Neshama à nouveau se répand dans tout le corps. C'est la raison pour laquelle, vous voyez dans Shulchan Aruch, tout est interdit, on n'a rien le droit de faire avant d'avoir prié. On n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, parce que une action qu'on peut avoir dans le monde est une action positive uniquement dans la mesure où on est totalement soumis à Dieu et où on maîtrise parfaitement les forces de notre Neshama. C'est uniquement la tfila qui nous donne cette possibilité. Quelqu'un qui n'a pas prié n'a pas encore cette possibilité. Et donc, tant qu'il n'a pas prié, il n'a rien le droit de faire. C'est la raison pour laquelle le rabbi insiste sur l'importance de la tfila pour les femmes, bien qu'a priori la tfila c'est un commandement positif qui est délimité dans le temps, donc a priori qui ne s'applique pas aux femmes. Donc malgré tout, le rabbi dit qu'une femme doit s'aménager un moment dans la journée pour prier, compte tenu de l'importance de l'apport de la tfila. Fait de faire en sorte que la neshama se répande dans tout le corps. Dans les narines. Elle rentre dans les narines et elle s'arrête là. Donc le reste du corps n'est pas soumis à Dieu. C'est vrai que tant qu'on n'a pas prié, on ne peut pas aller de l'avant. Non, ça c'est valable uniquement pour la nuit. Jour et la nuit, c'est pas la même chose. Vous voyez que les derniers mots qu'on dit avant d'aller dormir, c'est Beyadra Afkidruchi. Beyadra Afkidruchi, je place mon âme dans ta main. Si vous prenez les initiales des trois mots, Beyadra Afkidruchi, ça fait BR. BR, ça veut dire un puits. Ça veut dire que pendant la nuit, la Neshama quitte le corps et rentre dans un puits où elle puise de nouvelles forces et ensuite elle vit le lendemain en fonction des forces qu'elle a puisées pendant la nuit. Donc chaque jour, chaque journée est une journée nouvelle, et c'est la raison pour laquelle la prière d'hier n'est pas suffisante pour aujourd'hui, les 42 étapes d'hier ne sont pas suffisantes pour aujourd'hui, et chaque jour on a besoin à nouveau de recommencer tout ce qu'on a fait au préalable, en le faisant bien sûr chaque fois d'une façon plus élevée que la précédente. Pardon ? Une femme qui ne prie pas, ça veut dire que, par exemple, on dit dans le vous voyez que par exemple tous ceux qui n'avaient pas de nom juif et qui ont demandé au rabbi de leur donner un nom juif, à chaque fois le rabbi choisissait systématiquement le nom juif qui était le plus proche possible du nom goy que ces personnes-là portaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on dit dans la Gemara, que les parents qui choisissent un nom pour leur enfant ont Ruach HaKodesh. Vous savez qu'il y a une différence entre Ruach HaKodesh et Nevoah, l'inspiration divine et la prophétie. La prophétie est nécessairement consciente, alors que l'inspiration divine n'est pas consciente. La prophétie est consciente. Le Rambam nous dit que les prophètes, lorsqu'ils prophétisaient, ils entraient en transe, ils déchiraient leurs vêtements, ils se roulaient par terre, ils étaient dans un état anormal. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience de recevoir un dévoilement de Dieu. Par contre, l'inspiration divine, c'est quelque chose qui n'est pas conscient. On peut recevoir l'inspiration divine sans en avoir conscience. Par exemple, quelqu'un a posé la question au rabbi. C'est que le rabbi nous a donné des sichotes sur le commentaire de Rashi, sur la Torah. Et le rabbi nous montre que des fois, lorsque Rashi écrit trois mots, on a besoin de 10 pages pour comprendre ce que Rashi a voulu dire avec ces trois mots. Donc, le rabbi a posé une fois la question. Rashi a écrit un commentaire sur toute la Torah, sur tout le Tanakh, sur toute la Gemara. Ça veut dire que si chaque fois que Rachid écrivait trois mots, il était obligé de penser aux 10 pages que le rabbi a commenté sur ces trois mots. Ça veut dire qu'il aurait besoin de 500 ans pour écrire tout ce qu'il a écrit. Alors l'explication, c'est que Rashi a écrit par Ruach HaKodesh. Ça veut dire qu'au moment où il écrivait ces trois mots, peut-être que lui-même n'était pas conscient de toute l'implication profonde de ces trois mots. Simplement, il était inspiré par Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand le rabbi est venu par la suite et qu'il a développé ce que Rashi voulait dire, alors il nous donne une interprétation de Rashi qui est peut-être la véritable interprétation, sans pour autant que Rashi, lui, ait pensé à ces mots au moment où il les a écrits. Ça, c'est la définition de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est-à-dire que bien souvent, on dit quelque chose, on est inspiré par Dieu sans le savoir. Vous connaissez l'histoire que la Gemara raconte. La Gemara nous dit que Dieu a montré à Moshe Rabbeinu toutes les générations. Et puis, Dieu a montré à Moshe Rabbeinu le Rabbi Akiva qui enseignait la Torah des milliers d'élèves. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'est glissé parmi les élèves de Rabbi Akiva, et il a entendu Rabbi Akiva parler, et il s'est aperçu qu'il comprenait rien du tout. Alors, il a dit, c'est moi qui donnais la Torah au peuple juif, et lui raconte quelque chose, et moi j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, comment c'est possible. Là, il était vraiment très découragé. Et à ce moment-là, un des élèves de Rabbi Akiva a dit à Rabbi Akiva, mais ce que vous dites, d'où on le sait? Et Rabbi Akiva a répondu, Alacha le Moshe Misinaï. C'est ce que Moshe nous enseigne. À ce moment-là, Moshe s'est senti mieux quand même. Il a senti qu'il n'était pas complètement écarté. Vous voyez que, des fois, le Ruach HaKodesh, ça veut dire qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe réellement. Donc, ça veut dire, les parents qui ont un enfant, sans en avoir conscience, par Ruach HaKodesh, ils choisissent un nom à leur enfant. Alors donc, des parents qui sont complètement écartés de la Torah et des mitzvot, qui n'ont pas conscience de l'importance de ce que c'est qu'un nom juif, malgré tout, ils ont Ruach HaKodesh. Alors comme ils ont Ruach HaKodesh, ils vont choisir à leur enfant un nom goy qui est le plus proche possible du nom juif que leur Neshama doit porter. C'est pour ça qu'après, quand le rabbi rétablit la vérité, le rabbi prend le nom juif qui est le plus proche du nom goy que les parents lui ont donné. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas conscience de ce qui se passe. C'est pas parce qu'on n'a pas conscience que la chose se passe pas réellement. Donc, on a dit, quand on se lève le matin, le réveil, c'est la première étape. C'est la sortie d'Égypte. C'est la réintégration de la Neshama à l'intérieur de son corps. Au Bessofayom. Et ensuite, quand on arrive à la fin de la journée, Nishmato Lelemala. La Neshama remonte en haut. Donc quand on va dormir, encore une fois, la Neshama quitte le corps. Elle remonte là-haut. L'Ishov l'Achayim, Kedeita Bepirke de Rabbi Eliezer. Et la Neshama va recevoir la vie dont elle a besoin pour la journée du lendemain. Chez Zéou Amasa Acharon. Donc la dernière étape, au moment où on va dormir, c'est la 42e étape de la journée. Et ensuite, donc, pendant tout le reste de la journée, c'est les 40 autres étapes, en fonction de ce que chacun doit accomplir, selon la mission que Dieu confie à chacun pour chaque journée. Chaque journée a une mission spécifique qui ne peut être accomplie que pendant cette journée-là. C'est ça que le Zohar nous dit, « Yoma chada levusha chada ». Le Zohar nous dit, « Un jour, c'est un vêtement ». Une neshama descend dans le monde avec un certain nombre de vêtements spirituels qu'elle doit accumuler. Il faut qu'elle arrive là-haut en étant recouverte de tous les vêtements spirituels que Dieu lui a confiés comme mission. Donc le vêtement spirituel, il est tissé avec l'ensemble des actions que Dieu attend de chacun chaque jour. Si on a accompli dans la journée tout ce que Dieu attend de nous, alors le vêtement de la journée est entier. Si on a accompli seulement une partie, alors le vêtement est incomplet. Et ce qui a manqué une journée ne peut pas être rattrapé une autre journée, puisque à chaque journée correspond un vêtement différent.
Excusez-moi, comment peut-on avoir l'assurance d'avoir accompli ce que Dieu demande de nous ? C'est possible d'avoir cette assurance ?
Alors, on n'a pas d'assurance, bien sûr. La Gemara nous raconte une histoire. La Gemara nous dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, au moment où il allait mourir, il s'est mis à pleurer, ses élèves étaient autour de lui. Et puis ses élèves lui ont demandé pourquoi il pleure. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu, Eni yodea beizederech molichim oti. Je ne sais pas vers quel, dans quelle direction on m'oriente maintenant. Je ne sais pas si ce que j'ai fait dans ma vie, c'est suffisant, si j'ai bien agi, si j'ai suffisamment agi par rapport à toutes les forces qui m'ont été accordées, je ne sais pas. Et donc le rabbi pose la question, a priori, si on veut se poser cette question-là, ce n'est pas à l'article de la mort qu'il faut se poser cette question-là, c'est de nombreuses années avant. Si on se pose la question de nombreuses années au préalable, à ce moment-là, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a le temps de rectifier. Par contre, quand on se pose la question à l'article de la mort, là c'est fini. Même si on va prendre conscience qu'il y a quelque chose à rectifier, on ne peut plus rien faire maintenant. Comment on peut comprendre que Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est posé la question juste à ce moment-là? Le rabbi donne une réponse très simple. Le rabbi nous dit, toute sa vie, il n'a jamais eu le temps de se poser des questions. Toute sa vie, il agissait. Quand on arrive à l'article de la mort, là, effectivement, on peut commencer à se poser des questions. Par contre, toute sa vie, on n'a pas le temps de se poser des questions. Il faut accumuler les actions positives. Donc, l'interrogation, est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai pas fait assez? Est-ce que je dois faire plus? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? C'est pas une interrogation positive. Chaque fois qu'il y a une bonne action qui se présente, il faut la faire. Et le moment du bilan, il vient 120 ans plus tard. Pas en bas sur Terre qu'on doit se poser la question. On doit au contraire multiplier les actions positives. Donc, Inyan Amasaot Bavodat Adam ou Shetzarim et Alot Bakodesh. L'idée de ces 42 étapes, c'est qu'un homme doit toujours ajouter. Une journée ne peut pas être uniquement la reproduction de la veille. Chaque journée doit ajouter quelque chose de plus. Il faut qu'on sente qu'on a déjà l'acquis de la veille, et grâce à l'acquis de la veille, chaque journée permet d'avancer beaucoup plus. Ou la halot, mi darga le darga bavodato bekdusha gufa. On ne parle pas ici de quelqu'un qui se détache du mal, on parle même de quelqu'un qui s'inscrit d'ores et déjà dans la kdusha. Même si quelqu'un arrive à avoir une action entièrement positive, malgré tout, chaque jour doit apporter un avancement par rapport à la veille. Le rabbi explique, le rabbi nous dit, c'est aussi quelque chose qui est d'actualité. Le rabbi cite la Gemara, il y a une Gemara dans Ta'anit qui nous dit que, à partir du 15 av, les nuits commencent à s'allonger. Et donc, lorsque les nuits commencent à s'allonger, la Gemara nous dit, lo yivri leilia et la legirsa. La nuit a été créée uniquement pour l'étude. Et donc, à partir du moment où les nuits s'allongent, ça veut dire que Dieu attend de nous d'étudier plus. Donc la Gemara nous dit Mikan ve'eler, man demosif yosif. À partir de cette date-là, celui qui ajoute, ajoutera. Rashi explique, et ça veut dire Mosif chayim al chayav. Il va ajouter de la vie à la vie, à sa vie. À partir du 15 av, quelqu'un qui étudie plus la Torah reçoit une bénédiction accrue. Donc le rabbi pose une question sur cette Gemara. Le rabbi nous dit, a priori, c'est pas logique. Il y a un passage qui nous dit, Vagi tabo yomam valayla. Il faut étudier la Torah jour et nuit. Donc si quelqu'un a la possibilité d'augmenter son étude de la Torah, il n'a aucune raison d'attendre le 15 av, il doit le faire tout de suite. Et si c'est possible d'étudier la Torah plus à partir du 15 av, pourquoi ça ne serait pas possible d'étudier la Torah avant? Donc, le rabbi nous dit l'explication, c'est qu'on parle ici de quelqu'un qui étudie la Torah dans toute la mesure de ce qu'il peut étudier. Même lorsque quelqu'un arrive à étudier la Torah dans toute la mesure de ce qu'il peut étudier, le 15 av, Dieu ouvre des portes nouvelles. Et à partir de ce moment-là, même quelqu'un qui a fait le maximum jusqu'à maintenant, il a la possibilité maintenant de monter à l'étape suivante et de faire encore plus. Donc ça veut dire, même lorsque on a l'impression d'être au maximum de ses capacités, une journée nouvelle, c'est une capacité nouvelle, et on doit en permanence rechercher l'élévation, rechercher à faire plus. Des miyad kshenolad aouprinat gdusha, un enfant, depuis l'instant de sa naissance, il évolue dans la gdusha. Des yeshlo gouf kadosh, il a un corps qui est sacré. Le rabbi souligne toujours, on dit dans le Tania, que l'élection du peuple juif, quand on parle du peuple élu, l'élection du peuple juif, elle porte sur le corps juif, non pas sur l'âme juive. L'âme juive, c'est une partie de Dieu. Elle reste une partie de Dieu même lorsqu'elle est à l'intérieur du corps de l'homme. Donc Dieu ne peut pas choisir l'âme juive comme on ne peut pas se choisir soi-même. Donc, quand on parle d'élection du peuple juif, l'élection du peuple juif, elle porte sur le corps juif. Le Tania nous dit, à propos du corps juif, on dit « Nidme bechumriyuto le gufot umotaolam ». Dans son aspect extérieur et grossier, le corps d'un juif ressemble au corps des autres nations du monde. Donc le choix ne peut porter que sur deux choses qui ont une apparence identique. La définition que la Chassidoute nous donne du choix, lorsque vous avez deux choses qui ne sont pas identiques, à ce moment-là, vous prenez celui qui correspond le plus à votre besoin. Ce n'est pas un choix, c'est un acte raisonné. Si vous avez un objet qui satisfait pleinement votre besoin et un objet qui satisfait qu'à moitié votre besoin, vous ne pouvez pas dire que vous choisissez celui qui satisfait pleinement votre besoin. Vous le prenez parce que c'est celui-là qui satisfait votre besoin. Par contre, lorsque deux choses sont identiques, là on n'a pas de critère objectif, on n'a pas de raisonnement qui permet de prendre l'un plutôt que l'autre. Donc là on fait intervenir le choix. Donc entre l'âme d'un juif et l'âme d'un goy, il n'y a pas de comparaison possible, donc il n'y a pas de choix possible. Par contre, le corps d'un juif et le corps d'un goy ont une apparence identique. Donc Dieu choisit le corps juif. C'est pour ça que tous les matins, quand on dit dans la tfila ou Vanu Bachartam Mikolam Velashon, tu nous as choisi d'entre tous les peuples et toutes les langues, alors on dit dans Shulchan Aruch qu'on doit penser que c'est le corps juif qui a été choisi au moment du matin de Torah. Donc ça veut dire, puisque le corps d'un juif, il est choisi par Dieu, alors l'enfant, depuis l'instant de sa naissance, il possède un corps qui a été choisi par Dieu. Donc depuis sa naissance, il évolue dans le domaine de la Kdusha. Afalpiken, Tsaril Alot Bakodesh, on ne peut pas néanmoins se contenter d'une Kdusha naturelle, on est obligé d'ajouter en permanence. Chaque jour doit être une élévation par rapport à la veille, chaque jour doit apporter un peu plus. Dehainu liyot bematsav shel aliyah midarga ledarga bekdusha ad sheyavo lemasa acharon. Donc il faut poursuivre l'élévation, rechercher à aller toujours de l'avant tant qu'on n'est pas arrivé à la 42e étape de notre vie. Derzeu bechol yom vayom tzarich liyot beavodato beprinat aliyah midarga ledarga. Donc de même que la vie d'un homme est une succession d'élévations où en permanence on cherche à s'élever au-dessus de ce qu'on a été jusqu'à maintenant. De la même façon, la journée d'un juif est également une succession d'élévations. À chaque fois, on cherche à s'élever au-delà de ce qu'on a accompli dans les instants précédents. Ad shebesof hayom omer biyatrav kidruchi. Donc le soir, avant d'aller dormir, on restitue son âme à Dieu. Et donc, à ce moment-là, on doit être capable de faire le bilan de ce qui a été accompli dans la journée et constater qu'on a eu effectivement une élévation par rapport à tout ce qui a été fait auparavant. Ve'az nishmato la lemala lishov la chaim imakor achaim ha'ilyon. Et donc la neshama qui quitte le corps, elle monte dans les mondes supérieurs et elle reçoit une vie spirituelle accrue en fonction de ce qu'elle a accompli dans la journée. Et c'est la raison pour laquelle dès le lendemain, lorsque l'homme se réveille et qu'il reçoit des forces supérieures à celles qu'il avait la veille, alors on lui demande de pouvoir s'élever vers un niveau encore plus élevé. Comme ça que, par exemple, l'Admour HaZaken nous explique dans le Tanya, il y a un verset qui dit « Vechatati negdi tamid »« Ma faute se trouve toujours face à moi ». Donc on pourrait penser, a priori, si on regarde le verset en première lecture, on pourrait penser que c'est une vision pessimiste des choses. On demande à un homme de jamais oublier les fautes qu'il a commises, finalement on le désespère. Alors l'Admour HaZaken nous donne une explication complètement différente. L'Admour HaZaken nous dit, un homme fait tchouva. Lorsqu'il fait tchouva, il efface la trace de sa faute. Et puis ensuite, il s'élève dans son service de Dieu à un niveau plus élevé. Lorsqu'il s'est élevé à un niveau plus élevé, sa faute réapparaît. Et à ce moment-là, on attend de lui une tchouva plus élevée qui va permettre d'effacer sa faute même à ce stade plus élevé. De cette façon-là, il va s'élever vers un troisième niveau qui est encore plus haut. Et à ce moment-là, sa faute va réapparaître encore une fois. Ce qui fait que sa vie sera une succession de réapparitions de sa faute pour lui permettre de pouvoir toujours l'effacer à un niveau plus élevé, de façon à ce que, quand il arrive à la 42e étape, sa faute a été effacée de la plus haute façon qu'elle puisse être effacée. Ça veut dire qu'il n'y a jamais rien qui est définitif. On peut toujours remettre en cause pour pouvoir avoir quelque chose d'encore plus élevé. Ubeze yuvan gam mashemispar amasaot umembet. Ça nous permet de comprendre pourquoi il y a précisément 42 étapes. Kimvoa bekabala shechem mab ou hashem shinyano liot leezer vesiyua nitinat koach bechol avoda shelam ala aala milmata lemaala. Vous savez que la Kabbalah nous explique qu'il y a plusieurs façons de lire le nom de Dieu, Yudke Vavke. Donc le Yud s'écrit toujours Yud Vav Dalet. Par contre, le He, il peut s'écrire He He, il peut s'écrire He Yud, He Yud He, He Aleph He. Le Vav, il peut s'écrire Vav Vav, il peut s'écrire Vav Yud Vav. Donc quand vous calculez la valeur numérique de toutes les combinaisons possibles, vous apercevez qu'il y a 4 façons d'écrire le nom de Dieu. Une combinaison avec 72 lettres, une combinaison avec 63 lettres, une combinaison avec 52 lettres et une combinaison avec 42 lettres. Si vous faites le calcul, vous avez toutes les possibilités, vous retrouverez ces 4 possibilités. Donc là, en l'occurrence, le fait qu'il y a 42 étapes, ce n'est pas par hasard, rien qui est au hasard dans le monde. 42, le chiffre 42, c'est donc une des 4 combinaisons du nom de Dieu, et c'est précisément la combinaison qui apporte la force à l'homme de pouvoir accomplir la mission. La mission qu'un homme reçoit, ça peut être une mission immense, dont lui-même il n'a pas conscience. Donc quand un homme il avance dans le monde, alors il avance en étant accompagné par Dieu, et c'est parce que Dieu lui en donne la force qu'il arrive à accomplir des choses qu'il ne pourrait pas accomplir autrement. Par exemple, vous savez que on dit qu'un enfant, pendant les 9 mois de la gestation, il étudie toute la Torah. Et puis ensuite, à l'instant de sa naissance, on lui fait oublier tout ce qu'il a étudié. En réalité, on dit même que l'enfant n'oublie pas la totalité de ce qu'il a étudié au moment de sa naissance. Et qu'en fait, il a entièrement oublié la Torah qu'il a apprise au moment où il commence à parler. Tant que l'enfant ne parle pas, il se rappelle, il a encore quelques souvenirs de ce qu'il a étudié pendant les 9 mois. Mais donc, vous voyez que de façon générale, l'idée, c'est qu'un enfant, il étudie la Torah, après, il oublie tout. Donc, a priori, à quoi ça sert d'enseigner la Torah à un enfant pendant 9 mois, alors qu'on sait qu'après, on va lui faire tout oublier. L'explication, c'est que la Torah, elle est tellement éloignée de nous, la chorma de Dieu par rapport à nos capacités intellectuelles limitées, elle est tellement inaccessible pour nous, que si on n'avait pas étudié d'ores et déjà la Torah au préalable, on n'arriverait jamais à comprendre ce que la Torah nous dit. Vous voyez bien que lorsque vous étudiez quelque chose pour la première fois, lorsque vous abordez une idée pour la première fois, ça ne se passe pas du tout de la même façon que lorsque vous aviez déjà connu cette idée au préalable et que vous l'avez oubliée, et qu'on vous demande simplement de vous rappeler de quelque chose que vous avez déjà su au préalable. Se rappeler de quelque chose qu'on savait déjà avant, c'est beaucoup plus facile qu'apprendre quelque chose qu'on n'a jamais su. Donc chaque fois que nous étudions la Torah, nous nous rappelons de quelque chose qu'on a déjà su au préalable. Si ce n'était pas le cas, on n'arriverait jamais à comprendre la Torah. La Torah nous serait inaccessible. Donc ça veut dire que dans tout ce qu'on doit accomplir, dans la mission qu'un homme reçoit en bas dans le monde, alors pas à pas, il est guidé par Dieu. Dieu lui permet de faire les choses beaucoup plus facilement. Et s'il n'y avait pas cette aide de Dieu à chaque pas, alors on n'arriverait pas à accomplir la mission que Dieu attend de nous. Donc chaque fois que Dieu attend de nous une mission, il nous donne à chaque fois les forces de l'accomplir. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a 42 étapes. Les fiches lignan amasaot ou milmata le maala. Les 42 étapes, elles sont une succession. À chaque fois, on s'élève par rapport à l'étape précédente. Sula mutsav artsav et rosho magi hashamayma. La tfila est comparée à une échelle. Plus généralement, la vie de l'homme est comparée à une échelle. Donc, vous voyez bien que dans une échelle, on monte chaque échelon. C'est une étape de plus par rapport à l'échelon précédent. Le fichat al yod shaykh le shemab, Mispar Membet nous justifie ce chiffre de 42 étapes qu'on trouve dans la Torah. Donc l'idée, c'est que pour pouvoir traverser ces 42 étapes, alors on est aidé par Dieu. Et si on n'avait pas cette aide de Dieu, on n'y parviendrait pas. Bien qu'on doit accomplir toutes les mitzvot, les mitzvot n'ont pas pour chacun le même poids. Chacun reçoit une mission en fonction de ce que son âme doit accomplir. En particulier, le rabbi nous dit que dans notre génération, il n'y a plus de neshamot hadashot, neshamot qui descendent dans le monde pour la première fois. Ça veut dire que nos neshamot, chaque neshama de cette génération, c'est la réincarnation d'une neshama qui a déjà vécu dans une vie précédente. Donc nous vivons dans le monde pour pouvoir réparer ce qui a manqué dans une vie précédente. Donc vous voyez bien que les mitzvot s'appliquent à tout le monde de la même façon. Et il y a une expression qu'on dit toujours dans la chassidoute, on dit les mêmes tfilines que met Moshe Rabbeinu, le juif le plus simple les met également. Il n'y a pas deux catégories de tefilines. Une pour Moshe Rabbeinu, une pour un juif saint. Tous les juifs mettent les tefilines de la même façon. Néanmoins, la mitzvah n'a pas la même valeur pour chacun. Quelqu'un qui a des difficultés à accomplir la mitzvah, pour lui, le fait qu'il a des difficultés, ça veut dire que cette mitzvah a pour lui plus de valeur. Et le rabbi explique justement, il y a un verset, on va conclure avec ça. Il y a un verset dans Tehilim qui dit « Me oivai trakmeni ». Sens simple, ça veut dire « le fait que je sois plus intelligent que mes ennemis ». Et donc, dans la Chassidut, on donne une autre explication de ces versets. On nous dit « Me oivai, par l'observation de mes ennemis, trakmeni, rends-moi intelligent ». Donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse par l'observation de mes ennemis. Qui c'est mes ennemis? Mon ennemi, c'est le Yetzer Hara. Donc, je peux arriver à comprendre certaines choses en observant mon Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je ne sais pas pourquoi ma Neshama est descendue sur Terre. Pas de moyen objectif de le savoir. Moi, j'ai un Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il y a des mitzvot. Les mitzvot, je suis obligé de les appliquer en tout état de cause. Par contre, mon Yetzer Hara, lui, il sait quelles sont les mitzvot qui sont plus importantes pour moi que d'autres. Puisque mon Yetzer Hara, il est chargé de m'attaquer précisément dans les domaines qui sont le plus importants pour moi. Donc pour qu'il puisse m'attaquer, il faut qu'il sache dans quel domaine il doit m'attaquer. Donc mon Yetzer Hara, il a des informations sur moi que moi je ne possède pas. Mon Yetzer Hara, il sait quels sont les mitzvot qui ont pour moi plus de valeur. Donc c'est dans ce domaine-là qu'il m'attaque le plus. Et c'est ça ce que ça veut dire. Mais oivai trakmeni, donne-moi la sagesse en observant mon Yetzer Hara, lorsque je vois que mon Yetzer Hara m'attaque plus particulièrement dans un certain domaine, alors ça veut dire que ce domaine-là est plus important pour moi. C'est de cette façon-là que je peux savoir quels sont les mitzvot qui manquent plus particulièrement à ma neshama, parce que dans une vie précédente, j'ai négligé ces mitzvot, et que c'est à cause de ça que ma neshama est descendue une deuxième fois dans le monde. Il y a une histoire, une belle histoire du Baal Shem Tov qui illustre bien cette idée. On dit que une fois le Baal Shem Tov est arrivé dans un village. Le Baal Shem Tov ramassait de l'argent pour la tzedaka. Et donc il a demandé les adresses de la ville où il pouvait voir des personnes qui lui donneraient de l'argent pour la tzedaka. Et à ce moment-là, on lui a dit, dans telle maison, il y a un riche qui habite. Et lui, c'est quelqu'un qui participe chaque fois qu'il y a une mitzvah, chaque fois qu'il faut donner la tzedaka, il participe très largement. Seulement, quand vous irez le voir, il va vous recevoir au pas de la porte. Il ne vous fera pas rentrer chez lui parce qu'il a une peur panique qu'on salisse chez lui à la maison. Il a une belle moquette, des beaux meubles, donc il ne peut pas supporter l'idée qu'on va venir salir sa maison. Donc il vous donnera toute la tzedaka que vous voulez, mais il ne vous fera jamais rentrer chez lui. Vous resterez à la porte de la maison. Alors le Baal Shem Tov va voir ce juif, et le juif effectivement participe largement à la tzedaka. Et puis Le Baal Shem Tov dit, je vous remercie beaucoup. Le contribution était très, très généreuse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Est-ce que je peux vous donner une bracha? Et le juif lui dit, je vous remercie. J'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, j'ai pas besoin de brachot. Alors le Baal Shem Tov lui dit, si je peux pas vous donner une bracha, alors je vais au moins vous raconter une histoire. Et le Baal Shem Tov lui dit, une fois il y avait un juif qui a fait dans sa vie toutes les avérotes possibles et imaginables. Jamais été attiré à accomplir une mitzvah, jamais eu envie de faire quoi que ce soit. Et un jour, il passait dans la rue, dans son carrosse, et puis il a vu un vieil homme avec sa charrette qui s'embourbait. Et à ce moment-là, il a eu un sentiment de pitié. Pour la première fois de sa vie, il a ressenti de la pitié envers quelqu'un. Donc il a demandé à son cocher de s'arrêter, et il a été aider ce juif, il a fait sortir sa charrette de la boue. Et donc, 120 ans plus tard, quand il arrive dans le tribunal céleste, alors les anges disent, bon, a priori, c'est un cas simple, il a fait toute la vérote possible, imaginable, on va l'envoyer au Guéhenom. Et à ce moment-là, il y a un ange défenseur qui vient, il dit, mais attendez, il a fait quand même une mitzvah. Il a aidé au moins un juif une fois dans sa vie. Et donc le Bedin Shelmala a commencé à discuter, puis finalement le Bedin Shelmala a dit, voilà ce qu'on va faire, on va mettre dans une balance, d'un côté toutes les avérotes qu'il a fait dans sa vie, et de l'autre côté, la boue qu'il a déplacée pour aider ce juif. On va voir qu'est-ce qui est le plus lourd des deux. Et à ce moment-là, quand on a mis tout ça sur la balance, on s'est aperçu que les avérotes étaient un tout petit peu plus lourdes que la boue. Et à ce moment-là, l'ange qui a amené la boue, il a dit, attendez, je vais pas l'envoyer au Guéhenom pour un petit peu de boue qui manque. Et à ce moment-là, le Bedin Shelma a décidé, sa Neshama va descendre une deuxième fois dans le monde, et la mission qu'on confiera à sa Neshama dans le monde, c'est de recevoir des invités à la maison, quand ils vont entrer avec des bottes pleines de boue chez lui à la maison, toute la boue qui va s'ajouter sur sa moquette, c'est la boue qu'on va ajouter au fur et à mesure sur la balance. Donc vous voyez que il y a des fois où on a une difficulté particulière, et on peut se dire, moi je fais plein de mitzvot par ailleurs. Et finalement, cette mitzvah-là, si je la fais pas, c'est pas si grave, parce que je me rattrape avec toutes les nombreuses mitzvot que je fais par ailleurs. Et bien souvent, le Yetzer Hara va nous acheter avec des mitzvot qui ont un poids moins important pour nous, parce que ce sont des mitzvot qu'on a pleinement accomplies dans une vie précédente. Et de cette façon-là, le Yetzer Hara nous donne l'anesthésie nécessaire pour que les mitzvot les plus importantes pour nous, pour notre Neshama, on arrive à les laisser de côté. On s'arrête là.
Oui. Vous avez dit tout à l'heure que si Dieu n'a pas de choses, la personne elle se met sur deux choses.
La définition que la chassidou donne la Bechira.
Moi, je ne vais pas dire le mot exact, mais marqué dans la Torah que Dieu nous dit de choisir, voilà, je fais devant toi la vie. Et le contraire de la vie, et tu vas choisir la vie.
Oui.
Alors, est-ce que ça veut dire que le Yetzer Hara, le Yetzer Tov, c'est la même chose? De toute façon, un homme qui passe ça, il passe ça, il arrive, mais on nous demande de choisir la vie pour que la personne se remonte, pour qu'elle y arrive. Mais que de toute façon, il va faire sa vie, ce qu'il doit faire dans sa vie, il le fera.
Bon, c'est une longue question, j'essaie de répondre le plus brièvement. Le Yetzer Hara rentre dans le corps de l'homme au moment de sa naissance. Le Yetzer Tov, il rentre au moment de la bar mitzvah pour un garçon, au moment de la bat mitzvah pour une fille. Donc 13 ans plus tard, ou bien 12 ans plus tard. A priori, on pourrait penser que c'est pas logique. Le libre arbitre, ça veut dire qu'il doit y avoir 50% du côté du bien et 50% du côté du mal. Donc logiquement, pour qu'un homme il ait le libre arbitre, selon un fonctionnement normal, on aurait dû imaginer que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara rentrent dans le corps au même moment. Alors pourquoi est-ce que ça ne se passe pas comme ça? Parce que la Chassidoute nous dit, si le Yetzer Tov et le Yetzer Hara rentraient dans le corps au même instant, alors le Yetzer Tov balayerait immédiatement le Yetzer Hara. Lorsqu'on met le bien et le mal l'un à côté de l'autre, il y a une évidence de bien. Alors donc, si on veut qu'il y ait un libre arbitre, ce qui n'est pas une évidence logique, si on veut que le libre arbitre soit possible, qu'est-ce qu'on peut faire? il faut laisser le Yetzer Hara s'installer auparavant. Et donc, pendant 12 ou 13 ans, le Yetzer Hara, il va installer la force de l'habitude. Au moment où le Yetzer Hara est le seul détenteur du corps, le Yetzer Hara, il va installer dans le corps de l'homme des habitudes. Et donc, le Yetzer Tov, il devra lutter contre l'habitude. Et il n'y a rien de plus difficile que lutter contre une habitude. Le service de Dieu, c'est remettre en cause l'habitude. Dans le Tanya, on nous dit, dans le marché de Babylone, quand on loue un âne pour 10 km, ça coûte 1 zouz. Quand on loue un âne pour 11 km, ça coûte 2 zouz. Alors pourquoi le 11e kilomètre à lui tout seul, il coûte autant que les 10 km précédents? C'est parce qu'un âne, il a l'habitude de marcher 10 km par jour. Donc quand on demande à un âne de marcher 10 km par jour, on lui demande quelque chose qui s'inscrit dans ses habitudes. Et ça, il sait faire. Dès l'instant où on lui demande de sortir de ses habitudes, alors là, il y a quelque chose de plus difficile. Alors c'est ça la prira. La prira, ça veut dire que le côté du mal, c'est le maintien des habitudes. Le service de Dieu, c'est sortir de son habitude. C'est pour ça qu'on souligne toujours, on répète toujours dans la Chassidout que le mot avoda, avodat Hashem, service de Dieu, c'est de la même étymologie que orot avudim, des peaux tannées. Tanner une peau, ça veut dire que la peau telle qu'elle est sur le dos de l'animal, elle est couverte de poils. Quand elle est tannée et qu'on fait du cuir, le cuir, il a entièrement modifié son apparence par rapport à l'aspect d'origine. Donc, avoda, c'est la même étymologie que orot avudim. Ça veut dire qu'un acte n'appartient au service de Dieu que dans la mesure où il modifie complètement son habitude. Alors que dès l'instant où on reste dans son habitude, on ne peut pas faire le bon choix. C'est pour ça que le rabbi dit toujours dans les sikhot de Pessah, le rabbi nous dit « Pessah, ça veut dire un bon ». Pourquoi est-ce que la naissance du peuple juif, elle a été faite par un bond en avant? Le rabbi nous dit, la différence entre marcher et bondir, c'est que lorsqu'on marche, on a en permanence un pied par terre. À partir du moment où on a toujours un pied par terre, on est limité dans son avancement par l'écartement entre les deux jambes. Dès l'instant où on est limité dans son avancement, un avancement limité, il ne nous sort pas de l'habitude et il ne s'appelle pas un acte véritable du service de Dieu. Par contre, bondir, ça veut dire lever les deux pieds à la fois. À partir du moment où les deux pieds sont en l'air, là on n'est plus limité par l'écartement des jambes, on n'est plus limité par quoi que ce soit. Quand on n'est plus limité, qu'on va réellement de l'avant, c'est uniquement à cette condition-là que l'avancement est un véritable avancement. Donc c'est ça où Bacharta Bachaim. D'un côté, il y a la force de l'habitude, et de l'autre côté, il y a ce qui fait sortir de l'habitude. Alors, la première et la dernière étape, elles ont été définies ici parce qu'elles sont identiques pour tout le monde. Alors, les 40 étapes, ça veut dire que chacun doit reconnaître dans sa vie, si on nous demande de le faire, c'est-à-dire qu'on a les forces spirituelles nécessaires pour le faire. Il y a des moments où un moment a un poids plus important qu'un autre moment. Et c'est ces moments-là qu'il faut arriver à identifier, parce que c'est ces moments-là qui peuvent apporter à un homme beaucoup plus que d'autres moments. C'est écrit dans la Gemara, En lecha adam she'en lo sha'a. Chacun a son moment. Il y a le moment où il y a quelque chose qui se passe pour lui, et cette chose se passe que à ce moment-là et pas à un autre moment. Donc il faut arriver à déterminer. Le rabbi dit toujours dans les sikhot, il y a une idée très importante. Le rabbi dit « Atzlacha bizman ». Et des fois on peut passer des heures et s'apercevoir qu'on n'a rien fait du tout. Et il y a des fois en quelques instants, on peut s'apercevoir qu'on a fait énormément. Le rabbi a dit que par exemple un commerçant, il peut laisser son magasin ouvert pendant 8 heures et ne pas voir un client rentrer pendant toute la journée, alors que en 10 minutes, il peut faire la recette de toute la journée. Donc ça veut dire qu'il faut savoir déterminer quel est le point le plus important. Une fois, il y a un commerçant qui est rentré en Yichidut chez le Rabbi Maharash, et le Rabbi Maharash lui a dit, je t'admire, parce que moi je vois Dieu dans les Sfarim, et toi tu vois Dieu dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des fois où un moment a plus de poids, parce que pendant ce moment-là, on peut accomplir beaucoup plus. Alors c'est ça les étapes. C'est savoir mettre dans chaque étape du temps tout ce que Dieu nous donne la force d'y mettre. Oui, allez-y. Alors, quand on rêve du Rabbi, c'est complètement différent. Le Rabbi a dit une fois qu'un tzaddik, il est balabaïk sur ses rêves. Ça veut dire qu'un tzaddik, non seulement il décide lui-même de la manière dont il rêve, et un tzaddik, il peut également décider que d'autres personnes rêvent de lui ou pas. Et il y a une histoire qu'on raconte, une belle histoire, la raconter très, très rapidement. On dit que lorsque le guerrier précédent du précédent guerrier rêvé, qui était déjà très, très âgé, et normalement, ce qui avait été prévu chez eux, c'est que son fils devait lui succéder. Et un jour, son frère a fait un rêve, et le rabbi est venu le voir en rêve, et le rabbi lui a dit, c'est toi qui dois succéder à ton frère, et pas son fils. Et donc, le frère du guerrier rêvé a été voir son shamash, celui qui a arrangé pour que les gens rentrent chez le guerrier rêvé. Il lui a dit, va voir le rêvé, dis-lui ça. Donc le shamash a eu très peur quand il a entendu ça. Il lui a dit, j'ai peur de dire ça moi-même, donc rentre et va le voir et dis-lui toi-même. Donc il est rentré, il a été voir le guerrier rêvé. Et le guerrier rêvé lui a dit, un tzaddik, il est balabaït sur tous ses rêves. Donc si tu as rêvé qu'il t'a demandé de me succéder, alors c'est que sûrement c'est comme ça que ça doit être. Effectivement, quand il est niftar, c'est son frère qui lui a succédé et pas son fils, parce qu'ils avaient rêvé du rêve. Et